blagues de la rédaction jusqu'à 19h sur RCI.
18h34, c'est l'heure du lundi politique. Et l'invité ce soir est Alain Plaisir du comité d'initiative pour un projet politique alternatif. Christian Bataille, bonsoir.
Bonsoir à vous tous. Donc, comme vous le disiez, bienvenue dans lundi politique. Ce soir, nous recevons Alain Plaisir, le leader du CIPA, entendu par là, le comité d'initiative pour un projet politique alternatif, un mouvement né dans la foulée du LKP. Alain Plaisir, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous interrogez avec moi, Daniel Marival et Pierre-Édouard Picord des Nouvelles Semaines. Alors, rien que le titre de votre mouvement annonce la couleur, vous êtes donc pour un changement statutaire.
Tout à fait. Est-ce que nous avons fait le constat de l'échec de la départementalisation, le chômage augmente, la crise économique se développe en Guadeloupe, et toutes les solutions qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent ont échoué. Donc il faut proposer une alternative économique et politique. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison que le CIPA a pris naissance.
Justement, vous parliez économie, vous êtes un petit peu un spécialiste de l'économie, vous entendez souvent intervenir au niveau économique. Et parmi les propositions que vous avez faites lors du lancement de votre mouvement, c'était en 2009, vous préconisiez des tarifs douaniers guadeloupéens. Alors d'abord, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est conforme à la réglementation européenne? Est-ce que c'est réalisable?
Alors déjà, pourquoi nous demandons un tarif douanier? Tout simplement parce qu'on on part d'un constat, c'est que la Guadeloupe était une région européenne, est intégré dans l'Union européenne, et l'Union européenne même est basée sur le principe du libre-échange. Alors, libre-échange entre les 27 pays de l'Union, mais également l'Union européenne a signé des accords préférentiels avec un certain nombre de pays, des pays du Mercosur, par exemple pour la banane, mais également, dans le cadre de la mondialisation, une série d'accords de libre-échange. Et nous, comme nous sommes en Guadeloupe, nous sommes victimes de ce libre-échange, tout le monde constate. Que, prenons l'exemple d'une production vivrière très importante en Guadeloupe, l'igname. Ben, l'igname qui arrive ici, à bas coût, c'est l'igname de Costa Rica. Le poisson qui arrive en Guadeloupe maintenant, c'est le poisson du Pérou ou du Venezuela. Et face à cette importation massive, nos producteurs n'arrivent pas à faire face. Donc nous considérons qu'il faut une protection aux frontières pour mettre en œuvre une préférence guadeloupéenne. Donc voilà, donc, et pour nous, c'est fondamental. Parce que s'il n'y a pas de préférence guadeloupéenne, assez rapidement, toutes les productions vont disparaître. Nous savons que les productions traditionnelles, comme le sucre, la banane, confrontées à la concurrence internationale, n'arrivent pas à se vendre. Mais malheureusement, nos productions vivrières prennent le même chemin. Et donc, il est vital, il y a une urgence politique de changer rapidement de statut.
Alors, comme question pratique, même comment on peut être protectionnisme dans le cadre de la mondialisation?
Non, je pense que là, c'est une caricature. On n'est pas protectionniste. Nous proposons, comme beaucoup de pays, y compris des pays très libéraux, comme le Japon, protéger les productions vitales pour nourrir la population. Par exemple, au Japon, il faut savoir qu'au Japon, il y a des taxes importantes sur le riz. Parce que les Japonais considèrent que le riz, c'est une céréale stratégique, indispensable pour la population, et on peut pas faire disparaître le riz au Japon. Il faut protéger cette production, et au niveau des pays industriels, vous savez très bien que l'Europe a développé son agriculture grâce à la PAC, la politique agricole commune, qui est un système de protection aux frontières et de subventions. Donc, je prendrai aussi l'exemple des États-Unis qui protègent ces productions stratégiques comme l'acier. Donc, on ne peut pas dire que c'est du protectionnisme. C'est une protection sélective et modulée aux frontières. C'est-à-dire que pendant que nous mettons des moyens pour défendre certaines productions, de notre côté, nous vont ouvrir les frontières, par exemple, pour les biens d'équipement, pour les engrais, pour ce genre de choses. Donc, c'est une manière intelligente de mettre en place des instruments pour le développement économique.
Donc, cela veut dire aussi, par exemple, que l'octroi de mer, pour l'instant, est en sursis à Bruxelles. Donc, c'est un petit peu dans cette même veine. L'octroi de mer est en sursis, donc ça n'a pas duré longtemps. Donc, difficile, si l'octroi de mer est en sursis, de vouloir mettre des tarifs douaniers supplémentaires.
Mais justement, si l'octroi de mer est en difficulté, c'est parce que nous sommes intégrés dans l'Union européenne. Et l'Union européenne est basée sur le principe de la libre circulation des marchandises. Or, l'octroi de mer est considéré comme un obstacle aux frontières, puisque les marchandises s'arrêtent aux frontières pour acquitter l'octroi de mer. Et en plus, c'est incompatible avec les droits communautaires qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de discrimination entre produits importés et produits localement. Donc c'est le cas de l'octroi de mer qui, jusqu'en 2004, est taxé uniquement les productions importées. Et donc la réforme de 2004 a permis malheureusement déjà de taxer ce que la population ignore, de taxer certaines productions guadeloupéennes. Il faut savoir qu'Capes et Matouba sont taxés parce que les Européens obligent, ont mis en place un octroi de mer interne qui permet de taxer la production intérieure. Alors évidemment, pour l'instant, seuls les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 500 000 euros sont concernées par cette taxation, mais rien ne dit qu'en 2014, puisqu'en 2014, il y a une autre réforme de l'octroi de mer, qu'on n'étende pas ce système à toutes les entreprises guadeloupéennes. Et c'est parce que nous sommes intégrés dans l'Europe que nous ne pouvons pas avoir une fiscalité propre et une fiscalité propre. C'est ce que Saint-Barthélemy a demandé essentiellement, donc c'est ce qu'on demande pour la Guadeloupe. Donc il n'y aura pas de négociation, nous n'allons pas négocier dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Simplement, nous avons le droit, tout pays a le droit, enfin les PTOM ont le droit aussi, de mettre des taxes sur les importations.
Daniel Marival. Et Monsieur Plaisir, tout à l'heure dans votre explication, votre premier propos, vous avez dit que la naissance du CIPA est, disons, consécutive à un constat où toutes les initiatives, à votre sens, aujourd'hui, ont échoué. Alors, ont échoué, la question est de savoir pour qui. Politiquement, c'est pas sûr, parce que depuis des décades, dès que le spectre du changement politique se profile à l'horizon, les électeurs s'en méfient. Vous, Alain Plaisir, vous en savez quelque chose, car parmi les dizaines de milliers de personnes qui vous ont suivi lors des manifs du LKP, il n'y en est resté que quelques milliers lorsque vous avez eu, malgré tout, le courage de vous présenter aux élections régionales. Et puis, qui vous dit que dans un pays consommateur comme la Guadeloupe, les consommateurs ne vous en voudront pas de baisser leur pouvoir d'achat en installant des barrières douanières sur les produits qui arrivent à bas prix?
Bon, alors vous avez posé plusieurs questions dans une seule question. Bon, alors... Concernant la population, le choix de la population, effectivement, jusqu'à présent, la population, le peuple guadeloupéen a choisi le statu quo. Bon. Nous, quand nous avons décidé de créer le CIPA, nous avons fait un bilan de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent au niveau de la manière dont les anticolonialistes ont présenté le problème du statut. Tout le monde sait que pendant un certain nombre d'années, on a dit on sait le chemin, les dépendances, on sait le drapeau. Ouais. Bon, et nous avons considéré que jusqu'à présent, il s'agissait de postures, il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas de pédagogie. Et donc, à partir du moment où on brandissait simplement le slogan indépendance, sans.
Un peu incantatoire.
Incantatoire, sans expliquer, sans de contenu, ben, qu'est-ce que le peuple. Voyait, ah ben le peuple voyait les pays indépendants comme Haïti.
C'est un peu comme glissant, vous dites que quand l'espoir est dogmatique, ça devient dangereux.
C'est même pas le dogmatisme, c'est simplement l'incantation. C'est-à-dire que on a pensé, en disant indépendance, indépendance, les Guadeloupéens allaient suivre. Et on a aussi fait une mauvaise analyse quant à la sociologie du peuple guadeloupéen. La Guadeloupe, ce n'est pas l'Algérie, ce n'est pas l'Indochine, ce n'est pas le Vietnam.
Et c'est pas la même époque non plus.
C'est pas la même époque non plus.
Ah, ça, c'est un discours différent.
Ah oui, mais si vous
lisez. Peut-être l'avantage d'être un peu plus près.
Si vous lisez notre texte fondateur, vous verrez qu'il y a beaucoup de réflexions concernant justement la façon de comprendre la situation politique en Guadeloupe. D'ailleurs, nous disions dans notre texte fondateur que c'est le seul exemple de pays colonisé. Où les gens sont avec la métropole coloniale depuis plus de 4 siècles. Il n'y a pas d'autre exemple.
Ce qui fait que vous induisez le fait que malgré tout, il y a tellement de liens qui se sont tissés que ça devient difficile à défaire.
Oui, il y a des liens qui sont réels. Il ne faut pas les nier. L'erreur, c'est de nier les liens, qu'il y a des liens de toute nature, des liens des métissages culturels, ethniques et tout ça. Bon. Et ensuite, je vous dis, des liens de voisinage depuis 4 siècles. Bon. Donc, cela veut dire qu'il faut un modèle de décolonisation
à inventer,
tout à fait.
Parce qu'il n'existe nulle part.
Tout à fait. Et c'est ça le CIPA, finalement. C'est ça la réflexion du CIPA. Nous disons, il faut inventer un modèle de décolonisation, aucun schéma n'est applicable à la Guadeloupe parce qu'il n'y a aucun exemple qui ressemble à l'exemple de la Guadeloupe. C'est pas pour rien qu'on a dit que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion étaient les vieilles colonies. Et ces vieilles colonies sont devenues en 1946 des départements français. Donc il n'y a pas d'autre exemple dans l'histoire. Donc il faut imaginer. Et imaginer pour nous, c'est de dire que il faut véritablement que les Guadeloupéens prennent de leur responsabilité et confiance dans leur potentiel. Et pour cela, il faut une transition entre peut-être la volonté de la souveraineté totale et la situation actuelle, parce que la situation actuelle, il faut l'appréhender sous l'angle économique. L'angle économique, c'est la disparition des activités de production, et la disparition de ces activités de production amène un chômage qui devient insupportable. Donc, c'est pas de la théorie, c'est une réalité. 63 000 chômeurs, activités de production qui disparaissent, il faut faire quelque chose.
63 000 chômeurs qui sont en même temps des consommateurs, qui, eux, aiment consommer à bas prix, et c'est oui. Là le sens de ma deuxième
question. Tout à fait, j'ai une question, j'allais venir. Alors, ce que nous disons, et je vais vous laisser notre
programme. Je l'ai dit, c'est pour ça que je vous pose la question.
Elle est sur Internet.
Et sur Internet, tout à fait. Et nous disons que il faut organiser le marché. Il faut organiser le marché pour que, à la fois, notre production soit protégée et en même temps que le consommateur se retrouve. Alors, vous allez me dire que c'est difficile.
C'est un peu la quadrature du cercle.
C'est
non
pas si difficile que ça, parce que nous, on s'est inspiré beaucoup de ce que les Européens ont fait dans le cadre de la PAC, la politique agricole commune, où les production française était protégée, le blé, le lait, etc. Et en même temps, le consommateur n'a pas eu des prix trop élevés, parce que les marchés étant organisés, vous pouvez, en protégeant votre production, trouver des subventions pour aider, pour donner un complément de recette aux producteurs. Ce que je veux dire, c'est que si vous décidez, vous mettez le prix, un prix de référence pour l'igname. Actuellement, l'igname importé arrive sur le marché à 1 euro environ, même un peu moins. Nous, on vend notre igname à 3 euros. On peut très bien considérer comme prix de référence 1,50 euro. 1,50 euro, c'est moins cher que l'igname vendu par nos producteurs. S'ils vendent à ce prix-là, eh ben, ils vont pas s'en tirer. Donc, il faut leur donner un complément de recette. Et ce complément de recette...
Comment vous le trouvez?
On le trouve, eh ben, justement, sur les importations. Bien. C'est-à-dire, vous mettez une taxe sur l'importation, mais cette taxe-là ne sert pas à alimenter les caisses des collectivités.
Elle sert à compenser...
La collectivité a donné un complément de recette. Mais ça veut dire que ce complément de recette permet d'avoir un produit qui est abordable pour le consommateur et permet en même temps une préférence guadeloupéenne.
Je tiens à préciser simplement que les mécanismes exposés par Alain Plaisir le sont parce que, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un inspecteur des impôts, des douanes à la retraite. Mm-hmm. Donc c'est un système et c'est un mécanisme que vous avez probablement déjà étudié. Ouais. Je reviens simplement sur le terrain politique avec vous. Ouais. Est-ce que vous êtes un démocrate?
Oui, bien sûr. Pourquoi? Oui.
Il est allé aux élections, donc c'est
démocrate. Non, mais je suppose qu'il y a une quelque chose qui vient après. D'ailleurs, cette question, il y a une autre question.
Il y a une autre affirmation. Oui, parce que au fond, j'ai bien regardé le contenu de votre conseil d'administration, les gens qui sont autour,
oui.
Et on a l'impression que ce sont des gens qui sont parmi eux.
Oui.
Il y en a quand même un certain nombre que je pourrais considérer comme étant des recalés assez souvent du suffrage universel. Donc, ouais. Est-ce que vous êtes pour le suffrage universel? Et est-ce que pour vous, le fait de n'avoir pas été suivi autant que vous êtes,
oui.
dans vos instances et dans les consultations électorales auxquelles vous avez été candidat, marque un désaveu, ou alors que vous estimez que la population n'y comprend pas grand-chose?
Et dans le prolongement de la question d'Anne Marival, la question qui est un petit peu liée, vous pourriez répondre si vous voulez, on va revenir un petit peu en arrière sur les élections régionales qui vont être présentées. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un bilan humain de ces élections? Parce que c'est la première fois que vous allez à des élections. C'est dur. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu les premières réflexions un peu intimes que vous ont causé ces élections régionales?
Mais d'abord, la question de cette question-là, oui. Alors, les camarades qui sont au bureau politique du CIPA, il y en a peut-être un ou deux qui ont été aux élections et bon, il y en a un quand même qui a été élu à Saint-François sur la liste de Moutou Sami. Bon, il y en a d'autres qui n'ont pas été élus.
Suffrage universel, hein.
Suffrage universel, oui, c'était sur la liste.
Et au scrutin de liste.
Il y a un camarade qui était conseiller municipal à Saint-François.
C'est ça. Ouais. Ma question a été souvent, parce qu'il y a aussi des gens qui sont présentés souvent au cantonal, dans des espaces où on mesure directement la confiance qu'on peut faire.
Non, sur notre liste, il n'y en a pas. Il y a eu deux ou trois qui ont été. Nous avons, pour tout vous dire, nous avons des militants aguerris, mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons beaucoup de jeunes, hein, ce qui est rare dans les partis, ce genre de partis, hein, les partis qui prônent le changement radical. Nous avons beaucoup de jeunes et surtout nous avons beaucoup de femmes.
Comment ça se fait que vous ayez des jeunes alors que par exemple l'UPLG commence à avoir beaucoup de cheveux blancs à l'UPLG?
Oui, mais je pense que nous, ça me permet de répondre un peu à votre question aussi, nous on ne fait pas de l'électoralisme. C'est-à-dire, moi, j'ai consacré toute ma vie à défendre des intérêts des travailleurs. Donc, dans ma commune, je suis presque pas. Je suis plus souvent après tapis ou ailleurs à défendre l'intérêt général. Et vous savez, quand vous faites de la politique politicienne, ben il faut être implanté dans une commune, il faut aller au match de football, il faut être dans les associations, il faut faire tout ce travail, ouais, tout à fait, faire de l'électoralisme, aller dans tous les enterrements, même si on connaît personne, il y a toute une pratique électoraliste que nous n'avons pas fait et que nous ne ferons pas. Nous faisons pas de la politique pour gagner de l'argent. Nous développons des idées. Et nous sommes persuadés qu'un changement est indispensable et ce changement vient de Guadeloupe. Donc, notre travail, c'est tout un travail de pédagogie politique.
Alors, justement, sur ce point-là, vous parlez de pédagogie et parfois, les choses ont tendance à se confondre. Oui. Est-ce que vous estimez que c'est le même tournevis avec lequel on fait du syndicalisme et de la politique?
J'ai entendu ça déjà sous votre onde. Je crois que c'est un politologue qui parle de tournevis. Non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je pense que ce politologue avait mal répondu. Parce qu'il y a des exemples dans l'histoire où des syndicalistes sont devenus des dirigeants.
Lula,
Moales.
Mais en Guadeloupe, ça n'a jamais fonctionné.
Et Lesvalesa en Pologne. Mais en Guadeloupe, parce qu'il n'y en a pas eu vraiment de... Bon. Ensuite, il y a
certains comme Morvan, le CGTG, qui s'est présenté après des combats assez durs.
D'accord, il a fait du syndicalisme, il a fait de la politique après.
Il s'est ramassé.
Bon. Mais si on prend mon cas et le cas de certains camarades qui sont avec nous, moi j'ai toujours fait de la politique. J'ai écrit en 2000 un livre qui s'appelle Proposition pour le changement. C'était pas du syndicalisme. Dans mes interventions, vous le savez très bien, j'interviens pendant ma carrière syndicale entre guillemets. J'ai fait des interventions sur tous les sujets, que ce soit la banane, que ce soit les... Bon, donc, je me suis toujours impliqué dans le combat politique sans faire de la politique politicienne.
Non, la question était, est-ce que l'on peut faire la confusion des deux? Je veux dire, à partir d'un moment, est-ce qu'on ne doit pas dire aux gens, ça y est, à partir de tel moment, je quitte l'action syndicale et je rentre sur le terrain politique?
Je l'ai dit, et d'ailleurs, vous ne m'entendez plus. Comme dirigeant, hein, on ne m'a pas jeté dehors, hein, c'est moi qui suis sorti.
D'accord.
Je ne suis plus dirigeant syndical, je ne suis plus porte-parole, je l'ai été pendant 10 ans à CTU, mais je l'ai dit publiquement plusieurs fois, et j'ai refusé des interviews, là encore au 1er mai, on a voulu me faire parler, j'ai dit non, je fais de la politique, c'est clair, j'ai arrêté avec le syndicalisme, je suis un adhérent, je peux rendre un certain nombre de services, mais je fais de la politique parce que pour moi, on arrive à une étape où il faut un changement. Et le changement, à mon avis, ce sera la politique, c'est-à-dire une alternative politique. C'est pas simplement des revendications, parce que les revendications ont leurs limites. Alors, je voulais répondre à votre question, mais je vais y revendre. Comment j'ai vécu ça? Alors déjà, nous avons décidé d'aller aux élections pratiquement au mois de janvier, alors que l'élection avait lieu au mois de mars. Bon, donc il y avait très peu de temps pour préparer les élections. Il y a eu un temps pour tout ce qui était administratif, mettre 43 personnes sur la liste, etc., etc. Et nous avons été aux élections en développant des idées. Et alors peut-être, je parle à cœur ouvert, peut-être que naïvement, j'ai pensé que ça suffisait, parce que j'ai développé une idée, pas seulement pendant la campagne, mais pendant toute ma carrière syndicale. Mais comme je vous disais, j'ai pas fait simplement du syndicalisme. J'étais un membre actif pendant le mouvement social, notamment pour lutter contre la vie chère. J'ai passé des nuits blanches à négocier pendant une année, toute l'année 2009, notamment à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Et j'ai pensé naïvement que beaucoup des gens qui étaient dans la rue auraient porté leur suffrage sur notre liste, parce que nos propositions étaient le prolongement des revendications, mais d'une manière concrète, on proposait une alternative, un changement qui consolide la lutte sociale. Et les gens n'ont pas voté. L'histoire le dira, parce que c'est une sélection assez bizarre quand même. Quand vous voyez qu'un candidat rafle tous les suffrages dans toutes les communes, arrive en tête dans toutes les communes, y compris dans les communes où se trouvent des adversaires directs, comme aux Abîmes, comme ADE. Donc c'est une élection assez bizarre. Et donc c'est vrai que sur le coup, ça a été un coup de massue. On s'attendait à mieux, mais on a relevé la tête. Et surtout, les jeunes camarades, les femmes, nous ont dit, il faut qu'on poursuive le combat parce que notre combat est juste. Il faut le mener jusqu'au bout.
On peut comprendre votre déception. Ouais. Est-ce que vous ne vous sentez pas justement un petit peu floué du fait que tous ces gens-là vous auraient, je dis bien, vous auraient envoyé chercher ces 200 euros pour ensuite les dépenser dans le système dans lequel ils veulent rester?
Non, mais nous, quand on est militant, on fait les choses de manière désintéressée. On n'a pas, moi, je suis pas dans le calcul. Hein.
Vous comprenez bien ce que je veux dire?
Oui, non, mais
un peu l'utilisation du syndicalisme pour rester dans le système.
Non, mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Hein. Les gens, ils ont. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté. Et parmi les gens qui n'ont pas voté, il y en a beaucoup qui étaient dans la rue. Bon, après, les gens, on est dans un système où je vous disais, il y a l'électoralisme, il y a le clientélisme, il y a le clanisme, tout. Il y a des gens qui sont habitués à concevoir la politique en termes de donnant-donnant. Et nous, on n'a rien promis, on a simplement mis dans la balance un programme. Mais on n'a pas fait de promesses individuelles aux gens.
Il faut bien admettre aussi que les gens qui se laissent faire veulent bien se laisser faire. Parce qu'en
oui, mais c'est toute une histoire, c'est toute une culture. Et pendant 30, 40 ans, on a fait de la corruption dans ce pays-là. Et comment voulez-vous que les gens soient pas habitués, quand on fait pour moins, nous, on veut pas faire ça, on veut pas faire cette politique-là.
Ouais, mais enfin, c'est pas la corruption ni même l'achat de voix qui explique, le raz-de-marée qui a
mis le pouvoir. Non, il y a d'autres explications.
Il y a une question qui me taraude. Moi, je voudrais vous interroger là-dessus et revenir un petit peu à l'économie. J'ai bien regardé un petit peu. Je connais votre cheval de bataille sur les taxes douanières, etc., etc. Mais est-ce que l'un de nos handicaps économiques aussi, dans un système mondialisé que prône d'ailleurs le gouvernement français, notre tare, n'est-ce pas aussi le fait que nous ne commercions qu'avec la France ou avec l'Europe, et dans un seul sens, je veux dire.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Et que également aussi, on ne produit pas grand-chose.
Oui.
Enfin, pour faire du commerce, on produit.
Non, mais là, les deux sont liés. Nous disons qu'on produit beaucoup. On a une économie coloniale.
Toutes les ordures ne sont pas dans les poubelles.
Oui. Non, mais je disais qu'on a une économie coloniale. Mmh. Alors, c'est pas faire de la langue de bois, c'est pas des slogans, c'est une réalité. Cela veut dire que quand les Européens ont colonisé les îles, ces îles étaient destinées à satisfaire des besoins de la métropole en produits tropicaux. Le sucre, à l'époque il n'y avait pas de sucre en Europe. Et après le tabac, et plus près de nous, dans les années 1920, la banane, les fruits exotiques. Ah non, ça va. Mais le système colonial, c'est ça. Le système colonial, c'est que la colonie produit des matières premières ou des biens pour certains biens, pour des produits exotiques, pour
c'était la métropole. C'est déjà le système roumain, c'est vrai.
Et voilà. Et la métropole fournit tout le reste. Pas un clou dans la colonie, disait Colbert. Bon. Et on disait même que le transport entre la colonie et la métropole doit se faire sous pavillon de la métropole. Bon. Et dans les faits, ça n'a pas changé. Pourquoi ça n'a pas changé? Vous êtes alors si vous regardez les chiffres, 80% de nos échanges, c'est avec la métropole. Avec avec les États-Unis qui sont assez proches, c'est 4%. Avec le Venezuela, 2%. Avec les îles.
Aussi. Comment? Faut dire que c'est compliqué aussi. Pour commercer avec les États-Unis.
C'est compliqué
c'est
parce que.
Les normes européennes.
Non, mais c'est parce aussi. Que nous sommes dans. Aussi, sont pas nous sommes dans un système où on est intégré à l'Europe. Par exemple, à Barbade, la Barbade commerce à 14% seulement avec l'ex-colonie, l'ex-métropole. Bon, parce qu'ils sont, indépendants compagnies. À Barbade, il y a 14 compagnies d'aviation. Alors que nous, on peut parler toujours de monopole de pavillon. On a des. Ah, si, pour l'instant, vous avez Air France.
Il y en a trois.
Oui, mais c'est franco-français. Hein. Oui. Il n'y a pas de compagnie étrangère. Et au niveau des maritimes, c'est la CGM, Merck, c'est toujours français. Français toujours. Donc, on est dans ce système-là. Et vous avez ici des importateurs, des Guadeloupéens, ou on va dire Guadeloupéens, c'est plutôt des béquilles martiniquais, qui ont des liens privilégiés, des liens depuis pratiquement des siècles. Avec des exportateurs français. Et ces gens-là s'arrangent pour avoir le marché. C'est-à-dire, moi, je te vends, je te fais des remises, et toi, tu gardes le monopole. Et vous avez des monopoles. D'ailleurs, c'était dénoncé dans le rapport de l'autorité de la concurrence, des rapports d'exclusivité.
Il y en a eu des rapports là-dessus. Hein,
il y a eu des rapports. Donc, tout ce système-là fait que un importateur.
Ce qui est interdit d'ailleurs le droit européen.
C'est interdit, mais en Guadeloupe c'est interdit, mais on fait rien parce que l'autorité a dénoncé des ententes illicites, des marges abusives, mais il n'y a jamais eu de sanction. Alors que c'est interdit. Et l'autorité de la concurrence disait il fallait sanctionner, il fallait réprimer ces infractions. Bon, il n'y a pas de suite. Bon, alors donc, c'est pour bien dire qu'on est dans un système colonial. Et donc, nous ne commerçons pas avec nos voisins, parce qu'on est intégré dans un système français, d'abord, et maintenant européen. Bon. Et même quand une marchandise vient en Guadeloupe, d'un pays tiers, un pays hors de l'Europe, eh bien, ça passe par la France. Par exemple, c'est le cas des fameux roissous que nous consommons aussi. Ça vient du sud-est asiatique, ça va à l'Orient, c'est mis sous emballage en détail et ça vient en Guadeloupe. Ça veut dire que l'importateur qui est à l'Orient, il fait de l'argent sur le dos des Guadeloupéens, il envoie ici un importateur béquet qui fait de l'argent et en passant, on détruit...
Guadeloupéen, Martiniquais.
Oui, béquet, c'est pas pour moi, c'est pas une insulte, hein, parce que les béquets même s'appellent béquets.
D'accord.
Je vois pas ça comme une insulte, c'est pas un terme raciste, c'est béquet, hein, c'est comme on dit Chabin.
Nous sommes d'accord.
Chabin, bon, ça va déranger moi, hein. Ouais, bon, nous Chabin. Bon. Ouais. Donc c'est pas une insulte, c'est une réalité.
De vos tailles Chabin, vous êtes Chabin.
Voilà,
Chabin.
On est Chabin, hein, c'est la Guadeloupe, on est mélangé. Donc, il y a un système. Et d'ailleurs, si vous lisez notre texte, quand on parle de taxes, on parle de taxes après avoir fait toute analyse, l'analyse que vous faites là, c'est qu'on a un système colonial qui fait que vous n'avez pas vocation à vous développer. Vous avez comme vocation à fournir certaines matières premières que la métropole a besoin. Or, la métropole n'a plus besoin de nos matières premières. La métropole n'a plus besoin du sucre de la Guadeloupe. N'a plus besoin de la banane. D'ailleurs, vous voyez que l'Europe est en train de signer des accords avec les pays
d'Amérique du Sud. Dans certains domaines, on n'arrive même pas à subvenir nos propres besoins. Donc,
mais pourquoi ce problème aussi. Je viens de vous prendre l'exemple du Ouassou. Il y a quelques années, il y avait 17 fermes où on faisait du Ouassou. Tous les Ouassous qu'on mangeait en Guadeloupe, c'était des Ouassous qui étaient produits en Guadeloupe.
Bon, il y a les ouragans qui sont passés par là aussi.
Hein. Comment?
Il y a les ouragans qui sont passés par là aussi, qui en ont détruit plusieurs fermes.
Oui, non, mais ce sont surtout les importations. À chaque fois qu'on a décidé de faire une production ici, eh ben il y a un importateur qui commence par faire du dumping, qui commence à détruire la production. Quand on a dit dans les années 60, la Canada a des difficultés, on va diversifier, on va faire l'aquaculture, donc du Ouassou, comme les Guadeloupéens de Ouassou, eh ben ça a marché pendant un certain temps. Mais on vendait le Ouassou à 15 euros. Et du jour au lendemain, on a vu arriver des Ouassous venant du Vietnam, des oiseaux qui sont pleins d'antibiotiques, hein, faut savoir comment ces oiseaux sont élevés, eh bien, à 2 fois moins, à 7 euros, 8 euros. Bon, les gens, porte-monnaie pas patriotique, hein. Les gens achetaient le oiseau. Les gens vont pas rentrer dans tous ces arguments économiques.
Ça, on peut rien faire, c'est la loi du marché, ça.
Ah ben justement, nous, on n'est pas pour la loi du marché. On est pour une politique qui n'est pas une politique libérale. On est pour prendre des mesures, justement, pour entraver le libéralisme et la loi du marché.
Justement, où vous situez-vous dans l'échiquier politique dont on parle beaucoup? Il y a une gauche, il y a une droite, il y aurait un centre, il y aurait une demi-gauche, une demi-droite. Enfin, où seriez-vous? Où vous placeriez-vous vous-même, Julien?
Ah, monsieur Emmanuel, vous qui êtes un fin observateur, où est-ce que vous me mettriez?
Mais je sais pas, je dirais plutôt...
Vous êtes un autonomiste de droite ou de gauche?
Non.
La question est plus précise.
Puisque vous, et en plus, vous avoir des doutes, je vous dis qu'on va prendre des mesures antilibérales. Je pense pas que des gens de droite de parlent d'antilibérales. Oui, je suis véritablement à gauche.
Même plus à gauche, mais parce que vous êtes au NPA avec Besançon, vous le soutenez.
Enfin, on a des relations, on a de bonnes relations, mais je ne suis pas un NPA, mais on a de bonnes relations.
Vous avez des bonnes relations, par exemple, aussi, je crois qu'au CIPA, il y a un président d'une instance, c'est le président du port qui, je crois...
Il est sympathisant. Il est sympathisant. Il n'est pas adhérent, on a des sympathisants. Mais nous, nous sommes véritablement de gauche. On est beaucoup plus à gauche que le Parti Socialiste, par exemple.
Vous êtes plus à gauche que le Parti Socialiste, et vous verriez, entre guillemets, le mot est peut-être un peu excessif, fricoter avec la gauche alternative?
La gauche alternative. Alors, dans la gauche alternative, vous avez des gens qui sont un ancien communiste, je crois. Il y a un socialiste guadeloupéen. Il y en a un autre qui est à l'UPLG. Non, on n'a aucun problème avec ces gens-là. Mais je dirais même que je suis plus à gauche qu'eux. Parce que je n'ai pas entendu dire qu'ils avaient pris des mesures antilibérales. Parce que quand vous parlez de taxes, alors on peut voir ça d'une manière technique, mais si vous voyez ça politiquement, ce sont des mesures antilibérales. Puisqu'on a parlé de la loi du marché, c'est une loi capitaliste. Hein.
Très bien. Alors, dans ce cadre-là, avec ce discours-là, les voix ne viendront pas, je vais dire, de manière automatique, parce que c'est un discours qui n'est pas, justement, racoleur. Et vous vous réduisez à terme à être une boîte à idées, en fait, pour une autre grosse structure. Dans cette affaire-là.
Pourquoi vous dites ça?
Alors peut-être, en fin de compte, ça peut séduire peut-être de nouveaux électeurs.
Pourquoi vous dites ça? Parce que justement, parce que ce discours-là, avec ce discours, nous attirons des gens qui veulent faire la politique autrement. Et donc, non, nous avons la vocation d'être un grand parti.
Vous serez donc candidat aux prochaines élections territoriales, puisque
oui, il y aura des territoires. Donc, nous serons candidats, nous aurons plusieurs candidats, mais nous avons la vocation d'être au pouvoir, pas seul, mais pour diriger le pays, parce que un moment, ce pays-là, il faudra bien choisir notre politique. Parce que le chômage est à 63 000. 64 000, 65 000, 70 000. La violence, un moment, il faudra bien... D'ailleurs, si le problème du statut n'a jamais été évacué, c'est que on se rend compte que la situation départementale n'est pas satisfaisante. Donc, notre parti, qui est en train de se développer, a vocation avec d'autres, puisque nous sommes pour des alliances, à proposer une alternative politique.
Juste un mot pour terminer. Vous voyez un jour vous asseoir avec Victorin Lurel autour d'une table et constituer peut-être une majorité de je ne sais quoi?
Non, mais nous n'avons pas de problème avec les hommes. Hein. Si eux, ils se rendent compte à l'évidence qu'il faut un changement, parce qu'en Martinique et en Guyane, il y a eu un véritable débat sur le statut.
Apparemment, c'est mal parti.
Ça m'a passé. Mais enfin, ils ont changé. Ils ont quand même une collectivité unique. C'est pas le cas de la Guadeloupe.
Alors, votre programme est économique est, à mon avis, séduisant. Il y a un aspect pourtant qui n'est pas traité. C'est la masse de gens sans revenus, au chômage, qui sont pris en compte par le système actuel.
Oui.
Vous en faites quoi dans votre nouvelle Guadeloupe?
On peut presque terminer.
On a pensé à tout. Hein. Donc nous, on veut un statut d'autonomie. Donc PTOM, c'est un portail de compétences avec l'État. Nous avons très bien compris, parce qu'on a bien analysé la situation économique, que le seul endroit où véritablement nous avons un risque de déficit, on serait incapable de combler tout de suite ce déficit, c'est au niveau social. Donc cette compétence, nous laissons cette compétence à l'État. Et quand vous verrez notre document, vous verrez que
en matière... C'est un peu facile, non ?
Non, mais c'est ça, l'autonomie.
L'autonomie, partage des compétences,
c'est une partage de compétences.
Mais l'État, justement, veut se défausser sur ça. C'est
Vous avez un bel exemple. Il faudrait inviter Monsieur Magra, 1er janvier 2012. Les gens auront toujours leurs allocations familiales. Les gens auront toujours des prestations sociales, mais ils auront une compétence pour le développement économique du pays.
Mais il faut que Saint-Barth aussi a des ressources économiques. Ils peuvent se le permettre.
Ils ont le tourisme. Ils ont le tourisme, mais nous, on a des dons potentiels.
Merci beaucoup, Alain Plaisir. 19h10 passées. Merci d'avoir été l'invité de Lundi Politique.
Moi qui vous remercie.
Sur RC, c'était votre lundi politique. Demain, mardi, économie. Richard Garnier reviendra sur les difficultés financières des hôpitaux publics et du CHU Guadeloupe, bien sûr, en particulier.